Je vous invite à prendre avec moi Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Avant de lire le texte, je crois qu'on peut déjà dire qu'il est clair que les circonstances que Paul a subies étaient très difficiles. Paul n'a pas été en vacances toutes ces années. Il n'avait pas une petite vie pépère. Plutôt le contraire, il était dans les liens à cause de Christ, verset 13. Et puis, verset 16, il y avait d'autres chrétiens qui essayaient délibérément de rendre sa captivité encore plus pénible. Mais notez comment il finit le paragraphe, au milieu du verset 18. « Je m'en réjouis ». C'est évident, n'est-ce pas, qu'il est en train de se réjouir dans la tribulation. Malgré le fait qu'il les écrit d'une prison, il a de bonnes nouvelles à partager avec ses amis. Et je veux que nous regardions ensemble cette bonne nouvelle. Notre texte se trouve en Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14. Écoutez pendant que je le lis. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Il y a quelques remarques que je voudrais faire au sujet de la joie chrétienne. La première, c'est que la joie chrétienne est magnifiée dans la souffrance. La joie chrétienne est magnifiée dans la souffrance. C'est évident que Paul est dans la joie. Il nous dit à plusieurs reprises qu'il s'en réjouit. Pourtant, c'est de la prison qu'il les écrit. Regardez ce qu'il dit au début du verset 12. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé... » Arrêtons bien là. En tant que des habitants du 21e siècle, nous avons probablement lu ces versets sans faire attention. Mais cette petite phrase, « ce qui m'est arrivé » aurait attiré l'attention des lecteurs originaux de cette lettre. Immédiatement, il serait venu à l'esprit des images, des incidents et bien sûr des émotions. Paul n'a rien dû mentionner de nom. Il savait trop bien de quoi il parlait quand il a dit « ce qui m'est arrivé ». Tout ce que je dois faire ce matin est de dire « je veux que vous sachiez que tout ce qui est arrivé à cause de la grippe A ». Et il survient immédiatement à vos esprits des images que vous avez vues à la télé, des émotions peut-être si vous avez de la famille ou des amis qui ont eu la grippe, des débats dans lesquels vous avez pris part, hein, est-ce qu'il faut se faire vacciner ou est-ce qu'il ne faut pas se faire vacciner. Toutes ces choses surviennent à l'esprit quand je dis tout simplement la grippe A. C'était comme ça, bien sûr, mais dans un sens plus important, quand les lecteurs de cette lettre ont entendu Paul parler de « ce qui m'est arrivé ». Si quelqu'un écoute l'enregistrement de ce message dans 100 ans, par exemple, j'imagine qu'aucune émotion, aucune image, aucun incident ne viendra à l'esprit quand il entend la phrase « ce qui est arrivé à cause de la grippe A ». Il ou elle serait obligé de faire des recherches afin de découvrir ce que c'était cette grippe A. Et ce n'est qu'après avoir découvert exactement ce que c'était cette espèce de grippe A qu'il pourrait ou qu'elle pourrait comprendre l'importance de ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais ça fait pas 100 ans, mais 2000 ans depuis que ces choses sont arrivées à Paul. Et tandis que tout ce que Paul devait dire aux Philippiens était « ce qui m'est arrivé » et il comprenait de quoi il parlait, nous devons étudier ces événements afin de sentir l'impact que cette phrase avait au premier siècle. Donc arrêtons-nous pendant un instant et rappelons-nous de ce qu'étaient ces choses qui sont arrivées à Paul. 10 ans ont écoulé depuis que Paul a quitté la ville de Philippe en marchant vers l'ouest, en direction de Thessalonique, laissant derrière lui un groupe de croyants très petits et très divers. Il le revoit à peu près 2 ans plus tard, lors de son 3e voyage missionnaire, mais ce serait la dernière fois qu'il le verrait avant la réception de cette lettre. Les Philippiens, sans doute, étaient toujours désireux d'entendre parler des nouvelles de Paul, parce que le récit de ses voyages et ses expériences en ville après ville était sans doute plus fascinant qu'un roman. Mais tout cela est dans le passé. L'œuvre de Paul a été subitement arrêtée. Au moins, il semblait ainsi aux Philippiens, car environ 4 années plus tôt, quand Paul était à Jérusalem, il a été assailli par une foule sauvage, échappé à la mort grâce à l'intervention des Romains. Mais maintenant, depuis 4 ans, il n'est pas plus qu'un prisonnier. D'abord, pris à Césarée. Et là, il a gaspillé 2 ans en attendant le changement de régime. Pourtant, son cas n'a toujours pas été jugé. Aucun verdict n'a été donné. Finalement, il fait appel à César et il attend encore des mois avant de commencer le voyage à Rome. Et puis, le voyage à Rome prend encore des mois. Enfin, il arrive à Rome et il est mis dans un état d'arrestation pendant presque 2 années. Et quand Paul est venu à Rome, il faut se rappeler que Néron était l'empereur de Rome entre les années 54 et 68. Et Néron était un numéro, puisque sa mère, qui s'appelait Agrippine, avait été bannie de Rome comme un danger politique quand il avait que 3 ans. Néron avait été élevé par 2 esclaves, un coiffeur et un danseur. Mais lorsque son oncle Claude est devenu l'empereur dans l'année 41, elle, sa mère, a pu retourner à Rome et elle a reçu de nouveau son honneur et sa position. Et c'est alors qu'elle a persuadé à son oncle Claude, l'empereur, de l'épouser. Et elle devint sa 4e femme. Claude, par contre, avait déjà 2 enfants. Il avait un fils nommé Britannicus, qui allait devenir le prochain empereur, et puis il avait une fille appelée Octavie. Agrippine, par ses astuces, arriva à fiancer Agrippine à Néron. Donc il devient encore plus attaché à la famille de l'empereur. Et alors, par sa persistance, elle a persuadé Claude, son oncle Marie, d'adopter Néron en tant que son fils. Et Néron était 3 ans plus âgé que Britannicus, et donc il a été placé dans la ligne directe pour le trône. Claude fut alors empoisonné. Et on soupçonne d'ailleurs que c'était sa chère femme. Et après que Néron soit devenu empereur, il a fait empoisonner son frère Britannicus. Et Néron, par gratitude envers sa mère pour la position qu'il avait atteinte par son astuce, l'a lâchement assassiné dans une 2e tentative à sa vie. La première tentative, non réussie, était par la noyade. La seconde, en poignardant, était réussie. Néron a ensuite assassiné sa mariée, Octavie. Il a tué sa 2e femme pendant qu'elle était enceinte en lui donnant des coups de pied sans cesse. Il a mis feu plus tard à Rome, c'était dans l'année 64, à la ville de Rome, il a mis feu et pendant 1 semaine, elle a brûlé et alors il a tenu les chrétiens de Rome comme responsables et les a fait torturer. Les a torturés en les roulant dans une sorte de bitume et puis mettant le feu et les employant comme des torches humaines dans son jardin, ou en les cousant dans les peaux d'animaux sauvages et en plaçant ses chiens de chasse sur eux pour les déchirer en morceaux. Et il n'y a presque pas un crime que Néron n'a pas commis. Et comme un auteur nous dit, et je cite, tandis qu'il est vrai que certains de ces crimes n'ont pas encore été commis quand Paul a atteint Rome, néanmoins il doit être reconnu que c'était cet empereur de Rome qui était destiné à juger le dossier de Paul. Vous voyez, Néron est devenu empereur dans l'année 54, et le premier emprisonnement de Paul dans cette ville fut 6 ans après, dans l'année 60 ou 62, vers là, après que beaucoup de ces crimes, excepté le feu bien sûr, avaient été déjà commis. Donc finalement, il arrive à Rome pour être jugé, et c'est un personnage comme Néron qui va être le juge. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour la loi ou la justice. Donc liez toutes ces choses à l'expression « Ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé. » Et maintenant, depuis presque 2 ans, il est 7 jours sur 7, enchaîné à un soldat par une courte chaîne, Colossiens nous dit. Luc nous dit en Actes que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il était en prisonnier, mais dans sa propre maison qu'il devait louer lui-même. Et la raison que nous savons que c'était vers la fin de ce temps qu'il a écrit aux Philippiens, hein, c'est parce qu'il a dû passer assez de temps pour, premièrement, qu'un message de Rome puisse être amené à Philippe pour dire que Paul est en prison et dans le besoin. Et puis qu'une offrande d'amour puisse être recueillie et qu'Épaphrodite puisse la porter à Rome. Et puis qu'Épaphrodite tombe malade pendant qu'il est à Rome et que les nouvelles de sa maladie puissent atteindre l'église bien loin à Philippe. Et puis que les nouvelles puissent revenir à Rome et à Épaphrodite que les Philippiens ont appris qu'il était malade. Philippiens chapitre 2 verset 26, ne cherchez pas, mais il dit car il désirait vous voir tous. Et il, c'est-à-dire Épaphrodite, était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Vous voyez ? Il avait appris que les Philippiens ont appris qu'il était malade. Donc tout ça exige au moins 4 voyages entre ces 2 villes, un voyage qui prenait au moins 7 à 8 semaines. Donc évidemment, Paul était en captivité depuis longtemps à Rome. Et pour ajouter à tout cela, je crois que peu de gens se rendent compte comment Paul a été mal reçu par les chrétiens à Rome. Vous penserez que les destinataires d'une lettre comme il les a écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire la lettre aux Romains, lui aimeraient, prendraient soin de lui. Mais ce n'était pas le cas. Vous rappelez peut-être que Paul n'a pas fondé l'église à Rome, et sa première visite à la ville était dans les chaînes. Quand il a écrit aux Romains, il ne les a pas encore vus de face. Finalement, il arrive à Rome, mais en tant que prisonnier. Et quand il est arrivé la première fois, les chrétiens sont sortis pour le saluer, Actes nous dit. Mais les pasteurs à Rome sont rapidement devenus jaloux de Paul. Un bon nombre d'entre eux, verset 17 de Philippiens chapitre 1 nous dit, « Animés d'un esprit de dispute, annoncer Christ par, regardez-le, par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Comme si les liens n'étaient pas assez, ils veulent susciter encore davantage de tribulations. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible, lit une autre traduction. Et leur jalousie les a menés à négliger Paul, et quand les pasteurs et les prédicateurs l'ont négligé, les membres de l'église l'ont oublié tout simplement. Et c'était tellement le cas que quand Onésiphore a visité Rome, quand Paul était en prison encore une autre fois, quelques années plus tard, personne ne pouvait lui dire où Paul se trouvait. Imaginez ça. Il arrive à Rome, il demande aux chrétiens où se trouve Paul, ils ne savent même pas où il se trouve. Il y avait bien sûr des milliers de prisonniers déjà à Rome, éparpillés un peu partout dans la ville, mais personne n'avait pris le temps pour savoir où Paul se trouvait. Caché dans une cellule, quelque part sans doute. Et 2 Timothée chapitre 1 et verset 15 et la suite nous dit, Paul parle à Timothée et dit, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ?» Mais que le Seigneur répand sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Vous voyez, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Mais ce n'était pas le cas parmi les autres. Et ainsi, bien que Paul soit dans la ville de Rome, tout près de l'église de Rome, c'est l'église de Philippe, bien loin, qui a saisi l'occasion et a aidé Paul dans son besoin. Et vous savez, c'est une tristesse que même aujourd'hui, c'est souvent les chrétiens bien loin, plutôt que les chrétiens tout près, qui prend soin des prédicateurs et les serviteurs de Jésus-Christ. Et ils l'ont aidé pas seulement avec de l'aide financière, mais avec de l'aide physique sous forme d'Épaphrodite. Paul dit qu'Épaphrodite était leur délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Philippiens 2, 25. D'accord. Maintenant, quand vous entendez Paul parler de ce qui m'est arrivé, rappelez-vous de toutes ces épreuves et de toutes ces afflictions. Et avec tout cela à l'esprit, regardez le verset 12 encore. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire tous ces événements, toutes ces difficultés, tout ce qui m'est arrivé a plutôt, et voici la surprise. Vous voyez le mot plutôt? C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qu'on aurait prévu. A plutôt contribué au progrès de l'évangile. Au progrès de l'évangile. Il semblait comme si les choses allaient avoir un résultat très différent, mais ils ont contribué au progrès de l'évangile. Et cela nous fait penser de ce que Joseph a dit à ses frères en Genèse 50, verset 20. Vous avez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du, quoi? Du bien. Et donc Paul dit, je veux que vous sachiez. Vous voyez, c'est important pour Paul qu'il comprenne ceci. Je veux que vous sachiez que ce que vous pensez était mauvais et un obstacle au ministère de l'Évangile. Et ne penseriez-vous pas la même chose? L'apôtre païen, l'évangéliste itinérant, l'implanteur d'église, et maintenant il est derrière les barreaux. Plus de voyage, il a été écroué, son ministère est fini et l'avance de l'Évangile est calée. Mais Paul dit, ce que vous pensez était mauvais et un obstacle au progrès de l'Évangile a contribué au bout de compte à son avancement. Et on dit, Paul, est-ce que tout est maintenant terminé puisque tu es maintenant en prison? Non, dit Paul. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et je veux que vous saisissiez l'état d'esprit de Paul dans cette phrase. On devrait y mettre un point d'exclamation à la fin de cette phrase. C'est un peu comme l'étudiant qui appelle à ses parents pour dire « Hey, vous vous rappelez du concours que je voulais tellement réussir? Eh bien, j'ai fait encore mieux que j'y croyais possible. » Et c'est exactement ce que Paul fait. Vous vous rappelez de toutes ces choses qui sont arrivées? Mais vous voyez, l'élément de la joie est indubitable et c'est indéniable quand vous voyez la manière qui conclut ce paragraphe au sujet de ces circonstances dans le verset 18. Et je m'en réjouis. Ah, il a de la joie. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que la joie chrétienne est magnifiée dans la souffrance. Le monde attend que vous soyez heureux lors d'une fête, ou quand vous recevez une augmentation de salaire, ou quand vous obtenez ce que vous voulez, ou quand vous êtes avec vos copains au bar. Et c'est normal, et ces circonstances ne magnifient pas la joie. Ce serait une anomalie de ne pas être heureux à une telle occasion. Mais quand il vous arrive des choses comme celles qui sont arrivées à Paul, et que vous êtes toujours heureux, c'est alors que votre joie est magnifiée. C'est alors que le monde commence à demander pourquoi? Comment peut-elle être si heureuse? Nous voyons par l'exemple de Paul que la joie chrétienne est magnifiée par la souffrance. Et puis deuxièmement, considérez le fait que la joie chrétienne est conditionnée par quelque chose. Elle est conditionnée par l'Évangile. J'ai appris qu'on peut mettre près de 35 000 spectateurs dans le stade de football ici à Bordeaux. Et donc imaginez que 35 000 spectateurs entrent dans le stade à Bordeaux. Ils voient tous le même match, le même score, les mêmes joueurs, le même ballon. Mais quand ils quittent le stade pour rentrer chez eux, 25 000 spectateurs sont pleins de joie, sont très contents, très heureux, alors que les autres 15 000 sont déprimés et tristes. Alors je vous demande comment? Ils ont tous eu la même expérience, non? Ils ont tous vu le même ballon, ils étaient assis près de l'un et l'autre, ils ont vu le même score, ils ont vu les mêmes équipes, ils ont eu la même expérience. Pourquoi il y a la moitié qui sort heureux et l'autre moitié qui sort tout déprimé et triste? Ah, je vais vous dire pourquoi. Ce qui fait la différence, c'est le fait que leur joie était conditionnée par des choses différentes. la joie de la moitié des spectateurs était conditionnée par le fait que leur équipe gagne, et l'autre par le fait que l'autre équipe gagne. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir une prison pleine de détenus à Philippe, et la plupart d'entre eux sont fâchés, ils sont amers, ils sont déprimés ou plein d'autres sentiments de ce genre. Mais vous avez deux hommes dans la cellule intérieure et ils sont en train de chanter. Et qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, leur joie est conditionnée par des choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne manquez pas ceci. Si un chrétien est simplement heureux quand les non-chrétiens sont heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Que sa joie est conditionnée par les mêmes choses que la leur. Mais par contre, s'il est heureux dans la souffrance, sa joie est magnifiée, comme on a déjà dit, et l'on voit clairement que sa joie est conditionnée par autre chose. Alors, par quoi est la joie de Paul conditionnée? Qu'est-ce qui le rend heureux? Eh bien, qu'est-ce qu'il est si désireux de dire aux Philippiens? Regardez-le encore, verset 12. « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Vous voyez, la joie chrétienne est conditionnée par l'Évangile. Tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est pour ça que je me réjouis, dit Paul. Sa joie a été conditionnée par l'Évangile. C'est un peu comme un jeu d'élimination. C'est un peu comme Satan avec Job. Pourquoi est-ce que Job a confiance en Dieu? Eh bien, dit Satan, c'est probablement à cause de toute sa richesse. Ah, donc on va les enlever. Et d'un seul coup, il n'a plus de richesse. Mais Job se confie toujours en Dieu. Eh bien alors, dit Satan, sur sa famille et leur sûreté qui l'inspire à faire confiance en Dieu. Alors boum, on l'enlève. Sa famille est partie. Mais Job se confie toujours en Dieu. Et puis alors, dit Satan, ça doit être sa propre santé. Tu touches à son corps, il va te maudire, Dieu, je te le promets. Alors, boum, il enlève sa santé. Et Job se confie toujours en Dieu. Et on permet à Job de descendre au point où il devient évident à tous que, et je cite, « Quand même il me tuerai, j'espérerai en lui. » Job 13 et verset 15. Et Paul est en train d'être mené à travers ce même jeu d'élimination quant à sa joie. Est-ce que c'est le ministère ambulant de Paul qui le rend joyeux? Non, on verra, on l'enlève et puis il se réjouit toujours. Oh Paul, est-ce que c'est ta liberté personnelle qui te rend heureux? Ben, nous allons voir. Et boum, c'est enlevé. Il est mis en prison pendant 4 années. Pourtant, il est toujours joyeux. Paul, est-ce que c'est la reconnaissance, l'approbation que tu reçois d'autres croyants en tant qu'apôtre qui te rend heureux? On va voir. Hein, on va mettre des prédicateurs à Rome qui prêchent qu'ils par envie et par esprit de dispute. Alors, comment vas-tu maintenant, Paul? Es-tu toujours heureux? Et Paul dit, oui, je m'en réjouis toujours, parce que vous vous souvenez de toutes ces choses qui m'ont arrivé? Ils ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui compte pour moi. La joie chrétienne est conditionnée par l'Évangile, et en particulier ici, c'est l'avance de l'Évangile, c'est le progrès de l'Évangile. Ce mot progrès, ou avance, on pourrait dire, dans le verset 12, ça signifie l'avance d'un pionnier. On nous a dit que ce terme est un terme militaire grec qui désignait les ingénieurs d'armée qui allaient devant les troupes pour créer un chemin dans un territoire vierge. Et donc, bien qu'un prisonnier, Paul se voit comme un pionnier. Et ce qui me rend heureux, dit-il, c'est de voir l'avance de l'Évangile. Dieu a employé mon emprisonnement dans son plan divin pour accélérer l'avance de l'Évangile. Et c'est ça qui me rend heureux. La joie de Paul est conditionnée par l'Évangile. Vous savez que Dieu pourrait vous permettre de souffrir que pour magnifier votre joie et pour démontrer au monde ce qui cause votre bonheur. Alors je vous demande, que faut-il arriver pour vous frustrer pour gâcher votre journée, pour vous mettre sous l'eau, pour que vous vous trouviez au bout de votre rouleau? Que faut-il arriver pour vous faire perdre votre joie? Cela révélera la fondation, la cause de votre joie, ce qui vous donne du plaisir. Et la joie chrétienne est conditionnée par l'Évangile. Pour Paul, l'Évangile était sa première priorité. Le succès de l'Évangile dépassait toute autre chose. Et c'est ainsi que des inconvénients personnels, des dérangements, des inconvenances, des emprisonnements même, si ça servait à atteindre ce but, eh bien il est heureux. Alors si vous vous trouvez demain sur un lit d'hôpital, pourriez-vous réjouir que Dieu l'emploie pour le progrès de l'Évangile? Paul aurait pu, parce que la joie de Paul était conditionnée par l'Évangile. Paul, il pouvait être heureux même dans la souffrance en raison de l'avance de l'Évangile. Et comprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas la joie au lieu de la douleur, mais c'est la joie au milieu de la douleur. Il y a toujours de la douleur. Mais ce qui émouvait Paul le plus était ces choses qui concernaient l'avancement de l'Évangile. Ainsi, Paul est heureux en raison de l'avance de l'Évangile, mais c'est un peu trop général. C'est presque éthéré. Nous avons besoin de quelque chose de plus spécifique. Donc on demande à Paul, que veux-tu dire quand tu parles du progrès de l'Évangile? Dis-moi, comment l'Évangile peut-il avancer quand tu es emprisonné? Les Philippiens, sans doute, se demandaient la même chose. Et Paul, prévoyant une telle question, le répond dans le prochain verset. Regardez-le. Et il explique l'avance de l'Évangile au milieu des circonstances difficiles. Regardez le verset 13. C'est le résultat de l'avance de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alors, parle-t-il ici de l'effet de l'Évangile sur les croyants ou les non-croyants? Sur lesquels? Sur les non-croyants, n'est-ce pas? Le premier résultat de l'avance de l'Évangile, du progrès de l'Évangile, était la diffusion de l'Évangile. Vous pourriez le mettre de cette façon. La joie chrétienne est conditionnée par l'Évangile, oui, mais en particulier, un chrétien, malgré la souffrance, peut se réjouir dans la diffusion de l'Évangile. C'est la première de trois choses que je voudrais signaler. Un chrétien, malgré la souffrance, peut se réjouir dans la diffusion de l'Évangile. Le fait que l'Évangile est répandu et partagé et devient évident à beaucoup de personnes. Vous voyez ce mot, le prétoire, dans votre Louis II? Le prétoire signifie pas un endroit, mais un corps d'hommes, ce qui formait la garde prétorienne. Vous pouvez traduire la garde prétorienne ou la garde du palais. Le préteur était le magistrat chargé de faire rendre la justice. Dans ce cas, c'est qui? C'est César. C'est lui le prétoire. Et donc la garde prétorienne, c'est un terme qui dénotait le garde du corps ou les cohortes prétoriennes de l'empereur postées dans la métropole. Et on nous dit qu'il y avait peut-être autant que 9000 de ces personnes. 9000! Et c'est ça qui rend Paul si enthousiaste, c'est que, regardez le verset 13 encore, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'est ce que vous pouvez appeler la préoccupation d'évangélisation de Paul. Et loin d'être enlevé du champ missionnaire, il a été donné un nouveau champ missionnaire. Réfléchissez, parce que quand Paul allait de ville en ville, où allait-il? Il allait aux synagogues pour prêcher aux juifs. Et de là, son ministère normalement se diversifiait pour inclure les païens qui craignaient Dieu déjà. Nous savons à Athènes qu'il a prêché à quelques philosophes, mais ça c'est une seule fois. À Corinthe, il était principalement avec les pauvres de la ville. Mais maintenant, il atteint la garde élite de Rome, le garde-corps de César lui-même. J'ai visité plusieurs bases américaines outre-mer, notamment en Allemagne, en Espagne et en Italie. Mais je vous dis que c'est difficile d'y visiter, même en tant qu'Américain. Il faut un laissez-passer spécial. Et pensez à ces chrétiens au premier siècle. Comment vont-ils avoir accès à la garde romaine? Eh bien, Dieu a donné à Paul un laissez-passer personnel. Il était constamment enchaîné à un de ses gardes et il entrait en contact avec beaucoup d'autres par leur surveillance de lui et de son dossier. Et maintenant, partout dans le prétoire, parmi ces près de 9000 hommes, ils savent pourquoi Paul est emprisonné. Et donc, dans l'esprit de Paul, si l'emprisonnement était la chose nécessaire pour entamer ce travail missionnaire, alors un prisonnier, Paul deviendrait. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y avait au moins une famille à Philippe qui a souri quand cette lettre a été lue dans leur réunion de prière. Parce qu'ils savaient ce que Dieu pouvait faire quand ses serviteurs sont emprisonnés. Je pense au geôlier et sa famille. Ils ont compris que les manières d'agir de Dieu ne sont pas nos manières d'agir. Les liens de Paul sont devenus une source de joie pour lui parce qu'ils ont propulsé la diffusion de l'évangile. Nous voyons non seulement que l'emprisonnement de Paul a répondu à un besoin d'évangélisation, mais il a également répondu à un besoin apologétique. Alors regardez le verset 13 encore. Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de ces liens que nul n'ignore? Verset 13, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Voilà, c'est pour Christ qu'il est là. C'est pas pour autre chose, c'est à cause de Christ qu'il est là. Donc on peut dire deuxièmement que le chrétien, malgré la souffrance, peut se réjouir dans la défense, on peut dire la défense apologétique, de l'évangile. Quand on parle de ce qui est apologétique, on parle de la partie de la théologie qui tend à défendre la religion contre les attaques dont elle est l'objet. Donc on pense à la défense de l'évangile. L'emprisonnement de Paul, toutes ses souffrances maintenant dans la ville de Rome ont servi à défendre l'évangile et lui-même comme serviteur de l'évangile. Il est devenu évident à tous ses gardes et aux fonctionnaires romains qui s'occupaient de son cas qu'il n'était pas ce que ses accusateurs l'ont chargé d'être. Acte 25, verset 7 nous dit que les Juifs portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations. Et il n'avait pas encore été jugé, donc ces accusations restaient là dans son dossier, l'ont suivi jusqu'à Rome. Mais malgré toutes ces accusations, il devient clair à tous les gardes qu'il n'était pas ce qu'il était accusé d'être, mais qu'il a toujours était ce qu'il a toujours prétendu être, c'est-à-dire un prisonnier de Christ, et rien de plus. Paul obéissait à ce que Pierre a dit, en Pierre chapitre 4, verset 15, « Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé à des affaires d'autrui. » Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Et il dit aussi, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous voyez, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc toute la garde romaine savait que Paul n'a pas été emprisonné parce qu'il était un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur. Il savait qu'il était là parce qu'il était un chrétien. Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'était la dignité de Paul, son calme, sa confiance, sa tranquillité et sa vie irréprochable au milieu d'une telle injustice, qui était sans doute une défense apologétique pour le vrai christianisme. Tout le monde savait pourquoi Paul était en prison et pourquoi il ne l'était pas. Alors je vous demande, quand il y a 30 élèves dans la classe et le professeur fait ce qui est injuste, tout le monde répond de la même façon, sauf le chrétien. Et par sa réponse à l'injustice, face à l'injustice, il défend la foi chrétienne face à l'adversaire. Mais on peut dire troisièmement et finalement que le chrétien, malgré la souffrance, peut se réjouir dans l'affermissement des croyants. Donc là, on parle plus des non-croyants par des croyants, ici dans le verset 14, et on peut dire que le chrétien, malgré la souffrance, peut se réjouir dans l'affermissement des croyants. Regardez le verset 14. « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Vous voyez l'effet direct que son emprisonnement a eu sur d'autres croyants ? Ils ont été encouragés. Ils ont eu plus d'assurance. Ils sont devenus plus audacieux et moins craintifs. Et nous ne sommes pas sûrs exactement comment ceci s'est produit, mais ce qui est certain, c'est que c'était l'exemple de Paul dans la souffrance qui a affermi les autres croyants. Et vous savez ce que c'est d'avoir un autre croyant, peut-être plus âgé ou plus mûri dans sa foi, et vous voyez qu'il n'a pas peur de l'évangile, qu'il n'a pas crainte de parler de Dieu aux autres. Et vous voyez son exemple, peut-être même dans des circonstances difficiles et dans les souffrances de la vie, et son exemple vous encourage à être moins craintif et plus audacieux pour l'Éternel. Et si c'est vous que Dieu utilise ? Si c'est vos douleurs, vos souffrances qui font cela pour d'autres chrétiens, est-ce que ce serait assez pour vous rendre heureux? Je vous demande, est-ce que ce serait assez du fait que Dieu utilise vos souffrances pour encourager d'autres? Est-ce que c'est assez pour vous rendre heureux? Ou est-ce que vous pensez toujours qu'à vous-même? Surtout dans la souffrance, on pense souvent qu'à nous-mêmes. On ne pense pas au fait que Dieu veut utiliser nos souffrances pour encourager les autres. Laissez-moi le mettre peut-être d'une autre manière. Peut-être la manière que vous gérez vos épreuves en ce moment est conçue par Dieu de donner courage à un autre croyant. La manière que vous gérez vos épreuves en ce moment est peut-être conçue par Dieu pour donner courage à un autre chrétien. Il y a une belle histoire concernant Suzanne Spurgeon. Vous connaissez peut-être le nom de son mari, Charles Spurgeon, ce prédicateur anglais du 19e siècle. En 1868, sa femme Suzanne est devenue moitié infirme. Et à cause de sa maladie qui est restée avec elle tout au long de sa vie, elle a dû passer des jours au lit sans se lever. Et donc beaucoup de nuits ont été passées toutes seules pendant que son mari était en voyage, en train de prêcher partout dans le monde presque. Et une nuit, Suzy, qui était son surnom, elle dit qu'elle a trouvé des pensées grincheuses et incroyantes envahissant son esprit, détruisant sa paix spirituelle. Elle se demandait pourquoi Dieu envoie-t-il souvent la douleur pointue et amère pour me rendre visite? Pourquoi mon Seigneur fait-il ainsi avec son enfant? Elle se posait des questions comme ça. Elle doutait l'amour et la sagesse de Dieu son Père. Et puis la réponse, inattendue mais pourtant simple, est venue sous forme d'une parabole. Il y avait là devant elle une bûche dans le feu du foyer. Et elle regardait le foyer, elle regardait la bûche qui brûlait. Et elle écrit plus tard qu'elle a entendu un chant, comme un chant de oiseau. Mais un petit chant, presque une mélodie qui venait, elle ne savait pas d'où. Mais tout d'un coup, elle réalise que la musique, que le son, que le siffle venait de la bûche qui brûlait là dans le foyer. Elle a écrit plus tard, et je cite, « Le feu relâchait la musique emprisonnée dans le cœur du vieux chêne. » Ah, je me suis dit, quand le feu de l'affliction tire des chansons, des loges de nos cœurs, c'est alors que nous sommes purifiés et que notre Dieu est glorifié. Chantez dans le feu. Chantez dans le feu. Oui, avec l'aide de Dieu, si c'est la seule manière d'obtenir l'harmonie de ces cœurs apathiques et durs, permettez que le feu soit chauffé 7 fois plus qu'auparavant. Alors, pouvez-vous dire cela? Seigneur, je veux chanter, même dans le feu de l'affliction, Et Seigneur, avec l'aide de Dieu, si c'est la seule manière d'obtenir l'harmonie de ces cœurs apathiques et durs, permettez que le feu soit chauffé 7 fois plus qu'auparavant. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous apprendre à pouvoir se réjouir, même dans l'affliction et même dans la souffrance, malgré la souffrance, parce que notre joie est centrée et conditionnée, pas par notre propre santé, mais par le progrès de l'Évangile dans le monde.